5, 4, 3, 2, unité, stop.
Chaque semaine dans l'auberge espagnole, on reçoit...
Tout y passe et tous y passent.
L'auberge espagnole de ce mardi 17 va nous emmener du côté du collectif Impact à l'air pour parler d'initiatives pour les agricultures citoyennes et territoriales. Puis Vincent Houtin, président de la LGP Montpellier, viendra nous faire un petit point d'actu de ce qui se passe, on va dire, au niveau national et puis au niveau local suite aux malheureux événements de ce dimanche. Et puis Jean-Marie Villain de l'antenne Montpellier-Rennes d'Amnesty International viendra nous faire un petit point d'actu sur les actions qui viennent de passer et pourquoi pas ceux qui se passeront en 2014. The Herbalizer sur Divergence FM dans cette auberge espagnole avec ce titre The Turnaround. Et un demi-tour, il faudrait peut-être commencer à penser à le faire en matière d'agriculture, puisque on va dire les 40 dernières années ont été marquées surtout par plutôt les sciences de la mort que les sciences de la vie en ce qui concerne ce terrain-là. Et on est là ensemble avec Juliette Pérez qui est animatrice du collectif Impact LR. Bonjour.
Bonjour.
Alors le collectif Impact LR est l'acronyme d'initiative pour des agricultures citoyennes et territoriales. Il est né de l'union de 8 réseaux associatifs partageant des valeurs communes et une même vision de l'agriculture en milieu rural et du milieu rural en Languedoc-Roussillon. Le FRC IVAM LR, l'ADR LR, Terre Vivante, Accueil Paysan, Solidarité Paysan, Terre de Liens, le réseau des boutiques paysannes et marché paysan Languedoc-Roussillon. Et il y a eu un travail très important depuis 2 ans de structuration autour de ce réseau. J'imagine que ça a été un travail assez complexe pour mettre, en synergie des entités préexistantes et qui, pour certaines, j'imagine, existent depuis un certain temps.
Oui, alors en fait, nos réseaux associatifs ont une identité propre chacun. Mais l'idée, c'était en même temps, de nos travaux et de nos actions habituelles, de pouvoir nous rejoindre sur certains chantiers qui nous unissent et de mettre en commun nos énergies en faveur d'une agriculture qui est différente. Et nous, on entend par différente une agriculture qui replace vraiment l'agriculteur au centre de ses préoccupations, c'est-à-dire des préoccupations de produire et de vivre de son métier, mais qui replace aussi l'agriculture au sein d'un grand et vaste projet de société, car l'agriculture, c'est pas qu'une question d'agriculteur, c'est également une question de consommateur, d'éducation du jeune citoyen, etc., etc.
Alors évidemment, on pense à ce qui est plus de petites exploitations, à des circuits courts, à tout ce qui fait en ce moment le marché, on va dire, d'une façon un petit peu plus saine d'entrevoir la production et l'alimentation.
Oui, alors en fait, il faut savoir que sur les 10 dernières années, on a des chiffres assez alarmants d'après le dernier recensement agricole sur la disparition des exploitations agricoles. Donc, en fait, il y a une vraie préoccupation qui est de dire quelle est aujourd'hui notre capacité ou la capacité de nos territoires à alimenter les populations. Et donc, il y a des gens qui se sont amusés à essayer de calculer quel serait le nombre d'exploitations agricoles nécessaires par échelle territoriale pour nourrir les habitants. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on est très inférieur à ce qu'il faudrait en termes de surface agricole. Donc, ça veut dire que bien souvent, on a recours à des aliments qui proviennent d'un petit peu plus loin. Et la question se pose justement de la relocalisation de l'alimentation, parce que relocaliser, c'est effectivement diminuer la taille des exploitations. On n'est plus sur une agriculture industrielle avec de la monoculture et donc une agriculture que nous, on qualifie de fortement consommatrice en intrants. On est sur une agriculture, on va dire, plus de proximité, familiale, qui crée des emplois et qui permet justement de recréer de la proximité entre l'agriculteur et le consommateur.
Alors, ce collectif a officiellement vu le jour le 22 octobre à Agropolis Museum, c'est bien ça?
Alors en fait, il y a eu un petit changement de date. Finalement, le collectif n'a pas vu le jour le 22 octobre, mais le 5 décembre, à l'occasion du forum régional Circuit Court qu'on organise chaque année. Et ça se déroulait dans les locaux de la région Languedoc-Roussillon à l'espace Cap de Ville, Odysseum.
Alors, quelles sont les actions permises par la mise en réseau de ces structures et qui a suscité justement ce collectif Impact LR ?
Alors d'abord, Impact a vu le jour à une dimension plutôt régionale. L'objectif des administrateurs des 8 réseaux associatifs dont vous parliez tout à l'heure, c'est vraiment de mettre en énergie leurs valeurs et leurs forces en commun pour faire passer un message politique fort auprès des instances régionales. Mais Impact, c'est également des actions de terrain. Donc en fait, le collectif régional se décline à une échelle locale avec justement à la fois des actions qui peuvent être en faveur de l'installation, en faveur des circuits courts. On a des actions également en faveur du soutien aux agriculteurs en difficulté, des actions en faveur aussi, on va dire, de l'acquisition de foncier, la transmission des fermes, etc., etc. Et l'avantage, on va dire, c'est qu'on a 8 réseaux associatifs, il suffit d'en contacter un, et en fait, il peut renvoyer sur les autres en fonction du besoin du porteur de projet. Le porteur de projet pouvant être soit une personne en voie d'installation, soit un agriculteur déjà installé, soit un consommateur citoyen qui chercherait où s'approvisionner, ou carrément une collectivité locale qui aurait vraiment un projet de développement sur son territoire.
Alors, en région, Impact représente 3500 adhérents agriculteurs, le double de bénéficiaires finaux, 5000 heures par an de travail en bénévolat et une cinquantaine de salariés pour un budget de 3,5 millions d'euros. Il y a aussi une plateforme régionale de formation qui a été mise en ligne, www.formation-alteragri-lr.org, sur lesquelles, effectivement, on retrouve finalement tous les contenus qui concernent ce que vous évoquiez, c'est-à-dire non seulement les aspects, on va dire, agricole, mais aussi tout ce qui tourne autour, le foncier, etc. Une plateforme qui est déjà, j'imagine, visitée ?
Oui, tout à fait. Donc, en fait, on a voulu cette plateforme parce que chaque réseau associatif organisait des formations en fonction de son domaine de compétences spécifique. Et on s'est dit, avec ça, on a l'occasion d'avoir un espace unique et commun sur lequel les personnes intéressées peuvent se rendre et avoir accès à l'information sur les différentes formations. Et là, on est aussi en réflexion sur un autre outil qui serait un outil de recherche de foncier pour les personnes, justement, qui sont en phase d'installation. Donc, en fait, avec ça, on essaie d'avoir, on va dire, un package de services au travers d'un affichage unique qui impacte.
Impact, on peut retrouver sur Internet. Est-ce qu'il y a un portail du collectif pour l'instant ?
Alors, ça n'est pas encore le cas. C'est-à-dire, les travaux de structuration, c'est-à-dire de mise en commun de notre projet politique, etc., ont pris 2 ans. Et aujourd'hui, on développe un certain nombre d'outils. Et le site Internet d'Impact, ça sera un gros chantier pour nous sur 2014.
C'est avec plaisir qu'on vous recevra pour évoquer la mise en place de cet outil. On vous remercie d'être venu dans les studios de Divergence. Juliette Pérez, on rappelle que vous êtes l'animatrice du collectif Impact LR et que vous allez tout de suite prendre la route pour aller à Mende. Donc on vous souhaite une bonne route et puis bon travail.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Get it.
Equal Rights du grand Peter Tosh sur les ondes de Divergence FM. Vincent Autain était dans le studio il y a une seconde, mais il avait rendez-vous avec la première dame de Montpellier et il a dû s'en aller. Eh bien, nous reviendrons sur l'actualité que nous comptions évoquer avec lui tout à l'heure. Pour l'instant, c'est Jean-Marie Villain de l'antenne Montpellier-Rennes d'Amnesty International qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un petit peu la fin de l'année. Alors, c'est un petit peu le moment de faire les bilans et les perspectives. Peut-être commencer par un retour sur le bilan 2012 qui traditionnellement paraît juste à la fin du printemps édité
de l'année suivante.
De l'année suivante, qui a été marqué par quels grands événements.
Ben écoutez, d'abord bonjour et puis donc Amnesty, vous savez, publie toujours son rapport dans le courant du mois de mai, donc sur l'année précédente. Effectivement, le rapport 2013 a permis de recueillir des informations, faire des recherches sur les atteintes aux droits humains commises dans 159 pays quand même et territoires à travers le monde. Donc quelques chiffres, je ne vais pas vous assommer, mais simplement pour vous dire que les choses évoluent dans le bon sens, mais très très lentement, en gros c'est ce qu'on peut dire. Il y a quand même 112 pays sur à peu près, on va considérer 200, qui ont torturé leurs citoyens en 2012, donc là on ne peut pas dire que c'est un progrès, ça fait 70%. 100 pays, la moitié, qui répriment le droit à la liberté d'expression en 2012, donc, et notamment sur les journalistes qui sont très 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 atteints, mais pas seulement, il y a aussi les blogueurs. La bonne nouvelle, c'est que 155 États ont voté en faveur d'un traité sur le commerce des armes à l'Assemblée générale des Nations Unies, donc en avril 2013. Donc ça, c'est un progrès. Amnesty luttait depuis plus de 10 ans pour instaurer cet État. Donc ce traité, c'est pas un traité d'interdiction, c'est un traité de régulation, je précise, du commerce des armes. Parce que Amnesty n'est pas naïf, on ne demande pas l'interdiction du commerce des armes, simplement sa régulation, c'est-à-dire des traçabilités. Seuls 3 pays ont voté contre. C'est quand même un gros succès. Ça ne vous étonnera pas si je vous dis que c'est l'Iran, la Corée du Nord et la Syrie. Voilà, qui sont tous sauf démocratiques. Des prisonniers d'opinion donc, qui ont manifesté pacifiquement pour la liberté d'expression ont été détenus dans 57 pays. La peine de mort, qui est un de nos grands combats, il y a 21 pays qui ont procédé à des exécutions en 2012, donc c'est pas beaucoup. On va globalement vers une abolition de la peine de mort générale dans la plupart des pays, mais c'est très très lent, et les pays qui exécutent beaucoup. Ces pays, ce sont les États-Unis, toujours l'Iran, en particulier. Et plus des 2/3 quand même des pays à travers le monde avaient aboli la peine de mort dans leur législation, dans la pratique, à la fin 2012. Des femmes, des enfants et des hommes ont été confrontés à des expulsions forcées dans 36 pays. Et des personnes ont été victimes de disparitions forcées, c'est-à-dire enlèvement et en général torture et mort dans 31 pays. Deux derniers chiffres, 12 millions de personnes étaient apatrides depuis début 2012, 12 millions de personnes, et 15 millions de personnes sont actuellement enregistrées en tant que réfugiées, donc ce qui nous préoccupe beaucoup.
Alors, une situation qui... je sais qu'Amnesty aussi établit régulièrement des baromètres un petit peu des pays et de leur respect ou de leur non-respect des droits humains. La France n'y figure pas toujours en excellente place.
En bonne place, oui. Le rapport annuel épingle aussi la France, qui n'est pas exempte de violations de droits humains. Bon, évidemment, c'est rien de comparable aux pays dont je vous parlais, comme la Corée du Nord ou l'Iran. Ont été épinglés toujours... Les bavures policières, c'est essentiellement ce qui préoccupe Amnesty, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de bavures policières qui perdurent, quel que soit le régime politique ou le changement de président. Et ces bavures policières affectent en priorité, si je puis dire, des Noirs et des Arabes. Donc ce qui est quand même un peu gênant, et c'est pour ça que la France est régulièrement épinglée par le rapport d'Amnesty, et pas seulement par le rapport d'Amnesty d'ailleurs.
Alors Amnesty International, c'est une ONG que tout le monde connaît, qui a ses antennes, ses ramifications partout dans le monde. Sur Montpellier, vous êtes combien de militants référencés? Parce que j'imagine qu'il y a aussi des gens qui participent parfois et puis qui ne sont pas forcément tous autant impliqués.
Oui, bien sûr. Alors, organisation que tout le monde connaît, je mettrai un bémol, parce qu'on a des surprises quand on interroge les gens, quand on les rencontre sur la comédie, par exemple. Oh, Amnesty, peut-être.
La place de la la comédie n'est pas forcément le rendez-vous des militants.
Oui, c'est vrai. Effectivement. Mais il nous arrive d'y être et d'interroger les gens, et c'est vrai que parfois on est désagréablement surpris. Hein. C'était une parenthèse. Ben, à Montpellier, il n'y a qu'un seul groupe, ça paraît peut-être peu pour l'importance de la ville. Mais enfin, c'est un groupe très actif hein, qui compte 35 militants, dont une, on va dire 15 à 20 qui sont très très actifs, qui sont régulièrement actifs. Voilà. Et donc, nous avons une rencontre mensuelle où nous, enfin, le secrétaire nous propose du travail. Nous répartissons donc les différentes tâches qui sont ben, l'éducation aux droits humains, la participation aux radios associatives, la participation au stand au moment de Noël, comme je vous l'ai dit, l'animation des débats autour des cinémas Diagonale et Utopia, qui sont un peu nos relais en matière de droits humains. Voilà, etc. L'animation de l'antenne jeune également, puisque nous avons une antenne jeune qui vient de se reformer, qui semble très très active, hein, ce dont nous nous félicitons.
Alors justement, le fait que les choses soient très... on a l'impression que tout ça, c'est très organisé. Pourquoi une antenne jeune alors que finalement, il pourrait y avoir qu'un seul groupe? Quand vous dites qu'il n'y a qu'un seul groupe à Montpellier, est-ce que ça sous-entend qu'il y a dans d'autres villes, il y a plusieurs groupes Amnesty?
Bah, effectivement, oui.
Alors c'est parce qu'ils se spécialisent sur certains thèmes ou c'est parce qu'il y a des querelles d'église?
Non. Il y avait jusqu'à il y a quelques années, il y avait deux groupes Amnesty hein, qui avaient été fondés dans les années 70. Et bon, pour des raisons d'efficacité, disons qu'il y avait un groupe qui tournait avec très peu de membres. Donc on a préféré fusionner, c'est simplement pour être plus efficace. Et d'autre part, je signale qu'on a aussi une cotisation importante à verser à Amnesty Paris, qui en reverse aussi une partie à l'international. Donc c'est quand même moins lourd d'avoir une seule cotisation à verser, hein, autour de 750 euros, hein, pour vous donner une idée, que d'avoir deux cotisations. Hein. Et l'antenne jeune, ben, c'est une nécessité, parce qu'il y en a à peu près 40 hein, sur 350 groupes d'Amnesty. Il n'y en a pas dans tous les groupes. Disons qu'on a, une population Amnesty qui est quand même âgée, hein, j'en suis la preuve, même si les gens ne me voient pas. Donc,
les seniors ont parfois plus de temps à consacrer.
C'est pour ça qu'ils sont actifs dans les associations, mais c'est vrai aussi qu'on a des pratiques qui correspondent pas forcément aux besoins et aux envies des jeunes. Et donc, l'idée est venue il y a quelques années de créer des antennes jeunes qui dépendent du groupe, bien sûr, hein, mais qui ont leurs modalités spécifiques d'action. Et par exemple, vous avez peut-être connu ici Hélène Grange, hein, qui était une animatrice et qui est venue régulièrement faire des émissions. Leur participation, c'est par exemple des stands dans les facultés. Hein, ça sera aussi des flash mobs, ça sera des manifestations spontanées sur la comédie. Enfin, des choses, disons, qui les mettent plus en valeur et qui sont plus actives pour eux, hein, qui nécessitent un investissement peut-être plus ponctuel par rapport à nous, mais qui les satisfont. Ça sera aussi la mobilisation des militants par les réseaux sociaux, hein, sur lesquels nous sommes quand même un petit peu à la traîne, il faut bien le dire. Voilà, c'est pour ça que l'antenne jeune était tout à fait complémentaire de ce que j'allais dire l'antenne vieux, entre guillemets, mais bon, on va pas faire de masochisme, mais de ce que nous, les adultes, nous faisons. Voilà.
Très bien. Alors, en ce moment, à la une du site amnesty.fr, il y a la question des réfugiés syriens. 2,3 millions de réfugiés syriens, 0,02% seraient accueillis en France, au conditionnel. Donc, la France fait trop peu et trop lentement. On parle aussi de la République centrafricaine plongée dans la terreur. Et puis, de la pétition, ça s'était posté le 6, donc c'est révolu. C'était jusqu'à hier que la plus grande action mondiale pour la défense des droits humains...
10 jours pour signer, oui.
Voilà, la pétition 10 jours pour signer. Alors, ces thématiques, c'est celles qu'on voit sur le portail hexagonal d'Amnesty.
Ouais, tout à fait.
Alors, comment les antennes locales s'en emparent-elles et comment proposent-elles, elles aussi, est-ce que c'est toujours top-down ou est-ce que c'est parfois bottom-up les propositions, les interactions?
Dans la mesure du possible, on essaie de décliner les actions qui nous sont proposées par le secrétariat national, hein, par l'intermédiaire donc, du secrétariat des groupes. Et par exemple, pour ce qui a été de 10 jours pour signer, là, que vous avez évoqué, donc qui était une campagne qui durait du jour, qui s'est terminée hier pour la défense de prisonniers dont les droits sont bafoués. Hein. Nous l'avons massivement relayé au niveau local sous la forme de stands que nous avons fait à la comédie. Donc il y a eu le samedi 7 et puis il y a eu samedi dernier le 14 où nous avons quand même récolté 420 signatures, bon, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc on la continuera également, hein, mais enfin, bon, c'est une campagne qui nous a beaucoup mobilisés. Et donc, après ça, donc, ces prisonniers, nous les prenons en compte tout au long de l'année. Et régulièrement, nous leur écrivons, nous mobilisons la population pour défendre ces prisonniers, pour que ce ne soit pas, si vous voulez, simplement un coup d'éclat, mais qu'il y ait un suivi dans l'action.
400 signatures récoltées sur Montpellier, rapprochées des 1 406 868 signatures collectées le 17 au 17-12-2013. On peut vous retrouver chaque mois. Où ça ?
Eh ben, pas très loin de chez vous. Donc,
À l'espace Martin Luther King.
Notre siège, voilà, se trouve à l'espace Martin Luther King, donc au 27 boulevard Louis Blanc. Nous avons également une permanence chaque mercredi de 18 à 19h. Vous pouvez nous rejoindre. Et nous faisons une réunion mensuelle, donc le premier jeudi de chaque mois à 20h. Si les auditeurs souhaitent venir, ils peuvent venir pour assister à une séance et puis voir un peu comment ça se passe. Nous avons aussi un numéro de téléphone, donc 04 67 65 91 58 chez Madame Christine Viala, donc qui relaiera l'information et qui vous répondra.
Il y a aussi une adresse mail amnesty.montpellier@gmail.com.
Exact.
Voilà, où on peut évidemment vous contacter. Est-ce qu'il y a des actions qui sont d'ores et déjà prévues pour le début de l'année 2014 ?
Alors, pas d'action spécifique. Comme je vous l'ai dit, on continue donc le travail de longue haleine avec les 12 cas qui ont été utilisés pour l'opération 10 jours pour signer. Mmh. Nous avons une action ponctuelle le 13 janvier, c'est un lundi, où nous allons débattre du film L'Escale, qui traite du réfugié, donc des réfugiés. C'est une campagne que l'on continue également, donc la défense des réfugiés. Et le cinéma Diagonal donc, va présenter ce film L'Escale et nous en débattrons. Donc on invite les gens à venir le voir. Je crois que c'est autour de 20h le lundi 13 janvier. Voilà, après ça, nous continuerons sur les actions habituelles, c'est-à-dire la défense contre les violations des droits des femmes et notre action donc sur les problèmes relatifs aux Roms en France.
Très bien, Jean-Marie Villain, merci d'être venu nous tenir au courant un petit peu de l'action de l'antenne montpelliéraine d'Amnesty International. On vous retrouve aussi sur amnesty.fr/groupe/montpellier-1, même si c'est le groupe numéro 18.
18, effectivement. Hein, voilà.
Voilà, merci beaucoup.
Merci
et à très
vous.
Bientôt sur
au revoir,
de
merci.
Au revoir. Quentin devait être avec nous, il était dans les studios, mais son emploi du temps extrêmement chargé ne lui a pas permis de rester, car il est président de la Lesbian and Gay Pride de Montpellier, Languedoc-Roussillon, mais aussi directeur de l'Interpride World Region pour la région de la France, pardon, Belgique, Luxembourg, Monaco et Pays-Bas. On était dans la rubrique GLOP avec un mot sur le communiqué de la LGBT Angers relatif à la décision de la Cour de justice européenne vis-à-vis de la politique salariale du Crédit Agricole qui ne reconnaissait pas à un couple pacsé de même sexe les mêmes avantages conventionnels qu'aux couples mariés, ce qui est plutôt, on va dire, une bonne chose, même si ça reste, on va dire, dans les choses un petit peu légales, etc. C'est la HALDE, dans sa délibération du 11 février 2008, qui recommandait à la Fédération nationale du Crédit Agricole de se conformer à l'article L122-45 du Code du travail, d'étendre le bénéfice des avantages à l'occasion d'événements familiaux liés au mariage aux salariés pacsés dans les 3 mois, afin de restaurer l'égalité de traitement entre les salariés. Le Crédit Agricole ne l'entendait pas vraiment de cette oreille et s'est donc fait épingler par la Cour de justice de l'Union européenne qui dit qu'un travailleur qui conclut un PACS avec un partenaire de même sexe doit se voir octroyer les mêmes avantages que ceux accordés à ses collègues à l'occasion de leur mariage lorsque celui-ci est interdit pour les couples homosexuels. Le refus de lui accorder le bénéfice de ces avantages constitue une discrimination directe fondée sur l'orientation sexuelle. Donc un jugement plutôt positif à rapprocher, et là il aurait été bien qu'il soit avec nous, à rapprocher eh bien, de ce que fait eh bien, la Lesbian and Gay Pride de Montpellier, notamment dans le cadre de ses actions, tout particulièrement au niveau de la convention égalité entreprise, puisque la Lesbian and Gay Pride Montpellier, Languedoc-Roussillon, mène une action en faveur de l'égalité des droits pour tous et pour toutes en s'adressant au monde de l'entreprise. Une initiative a été prise donc de mettre en œuvre une convention égalité à destination des sociétés et de leurs salariés. Une volonté de la LGBT de créer des passerelles collaboratives et de développer des synergies. Voilà, ça c'était pour, on va dire, le côté glop. Et puis le côté pas glop, c'est ce qui s'est passé dimanche, puisque des contre-manifestants à la manif pour tous ont été pris à partie au premier étage du parking Lessac ce dimanche. 9 blessés qui dénoncent la répression différenciée de la part des agents de police. C'était donc ce dimanche où quelques centaines de personnes ont défilé boulevard du Jeu de Paume sous la bannière de la Manif pour tous contre la récente loi dite du mariage pour tous. Face à cet appel, quelques militants de défense des droits LGBT se sont postés au premier étage du parking Lessac et ont suspendu des banderoles au moment du passage du cortège. Quelques minutes à peine après le début de l'action, des militants auraient été violemment agressés par 6 à 8 hommes accompagnés d'un chien et armés de poings américains, de barres de fer, de chaînes et de nunchaku pour la possession de telles armes, indiquant la préméditation de l'agression. Certains de ces hommes, membres du groupe d'extrême droite, la Ligue du Midi, ont d'ailleurs déjà été condamnés par des actes similaires, peut-on lire sur le site de la Horde. Les agresseurs ont pris leur cible par surprise, les frappant alors qu'elles étaient de dos. L'un d'eux prétendant être de la police, ils n'ont pas hésité à viser directement la tête et à pousser les militants contre la barrière du parking au risque de les faire tomber dans le vide. Ils auraient ensuite pris la fuite en volant du matériel, mégaphone, banderole, sans être interpellés par la police, pourtant présente à la sortie du parking. Une vidéo filmée par les militants montre d'ailleurs les agents de police montant sans se presser dans le parking alors que l'agression a commencé. Ils mettront plus d'une minute à rejoindre les lieux. 9 personnes ont été blessées, conduites à l'hôpital. 4 militants en sont sortis avec attelle, point de suture et jour d'ITT. Au même moment, une cinquantaine de manifestants de défense des droits LGBT étaient réunis en contre-rassemblement sur la place de la Comédie. Peu après, ils ont été encerclés par la police qui a arrêté un mineur soupçonné d'avoir jeté un œuf. Ça déchire. Voilà, donc en tout cas, à en croire ce qui s'est passé, ce qu'on peut lire sur le site du Midi Libre, la manifestation ne s'est pas vraiment déroulée sans trop de problèmes, puisqu'on peut lire tout en bas de l'article du Midi Libre, deux incidents. Une manifestation placée sous étroite surveillance a été marquée par deux incidents au niveau des Halles Lessac, puis à proximité de la Comédie, où le militant d'un groupe antifasciste a été interpellé par les policiers de la brigade anticriminalité pour un jet de projectile. J'aime bien qu'on appelle un œuf un projectile, c'est quand même, ça fait moins mal qu'un pavé. Mais bon, le Midi Libre n'avait pas eu le temps d'enquêter, allez savoir. Voilà, en tout cas, eh bien, on sera ravis de recevoir Vincent Autain un petit peu plus tard pour parler de la suite. Et puis aussi, tant que je vous tiens, avant de passer à toute autre chose et à la partie musicale avec laquelle nous allons refermer cette auberge espagnole, un petit mot, vous qui allez vous empiffrer de gras, d'alcool et de sucre pendant les fêtes de Noël. Sachez que la délégation de l'Association végétarienne de France de l'Hérault a le plaisir de vous convier à l'avant-première projection du film documentaire La santé dans l'assiette. Ça se passe ce jeudi 19 décembre à 19h45 au cinéma Diagonale Capitole et c'est co-organisé en collaboration avec Jupiter Programmation et le cinéma Diagonale, suivi d'un échange avec des intervenants locaux spécialisés en nutrition végétalienne et en production biologique. Edith Goyer, hygiéno-nutritionniste végé crudivore, mon dieu ça fait peur, installée dans le 34, Eva Claire Pasquier, formatrice en nutrition végétalienne sans gluten, installée dans le département de l'Hérault aussi. Yezid Ayala, producteur et distributeur de paniers bio, installé dans le 34. La projection du film, ce sera le film A Film That Can Save Your Life de Roger Ebert du Sun Times de Chicago. Une film qui examine l'hypothèse selon laquelle le renoncement aux produits d'origine animale et industriellement transformés permettrait de soigner, voire complètement guérir, la quasi-totalité des maladies de société. Aujourd'hui en France, où 15% de la population adulte est obèse, où 60% de la population française a passé le seuil à partir duquel il ne faut pas grossir faire pour éviter l'obésité et les autres maladies de société. À savoir aussi qu'au cours des 15 dernières années, l'obésité a augmenté de 75%. Les maladies cardiovasculaires, quant à elles, représentent la deuxième cause de mortalité dans l'Hexagone. Et puis, chaque année, plus de 15 000 pontages coronariens sont exécutés. Donc, rendez-vous ce jeudi 19 décembre au cinéma Diagonale. Bon appétit.
L'Auberge espagnole sur Divergence FM, c'est tous les mardis de 12h à 13h.
Quelque chose n'est pas trop dégueu.